Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal grâce à Mzati. Désormais, toute initiative de sanctionner les mandataires de l'État doit d'abord être validée par le président de la République. Ainsi vient de décider le chef de l'État Félix Tshisekedi. Sa décision a été annoncée vendredi dernier au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, nous donne plus de détails dans quelques instants. Plus de 440 candidats enseignants et directeurs d'écoles primaires viennent de passer une première phase des concours pour le compte de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la ville de Bunia-Nituri. Les gagnants vont constituer une banque de données de recrutement en cas de besoin. L'évêque du diocèse de Goma appelle tous les chrétiens de cette ville sous occupation du M23 à garder leur foi malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele a lancé ses messages à l'occasion de la célébration du dimanche des Rameaux. Il est notre invité. Mesdames et messieurs, bonjour. Les actions disciplinaires à l'encontre des mandataires de l'État doivent désormais être communiquées au préalable au chef de l'État. L'objectif est qu'elles soient prises en toute transparence pour assurer la paix sociale dans les entreprises et établissements publics. Cette décision a été annoncée vendredi dernier au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par Jean Gando.
Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État. En vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale, le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui sera désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. La première ministre informé. Cette mesure vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence et conformément aux règles en vigueur. Tous les cas de suspension litigieux et ceux contestés en cours doivent lui être communiqués dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le président de la République a engagé la première ministre à organiser régulièrement, avec le concours de son cabinet, du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'attention des responsables tant des entreprises et établissements publics que de la tutelle sur les procédures disciplinaires afin d'éviter les abus et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres.
En réaction, le coordonnateur du Centre des recherches en finances publiques et développement local, CREFDEL, s'oppose à cette idée de laisser au chef de l'État seul le pouvoir de suspendre les mandataires publics. Valérie Madianga, au téléphone de Michel Kifindangoy.
Une suspension n'est qu'une mesure conservatoire. Nous ne pensons pas qu'il faut que le président de la République puisse donner son quitus avant qu'on puisse suspendre celui qui a été soupçonné de mauvaise gouvernance ou bien un rapport qui établit la mauvaise gestion des mandataires doit en principe obtenir le quitus du président de la République qui n'a pas participé à l'enquête, qui n'a pas non plus participé à l'audit, même aux auditions, qui ne maîtrise pas bien les rouages des dossiers. Je pense que il n'est pas nécessaire que ce dernier puisse donner son quitus avant qu'on puisse suspendre un mandataire public. Si cela s'avérait que la mesure soit appliquée, je pense que c'est un grand recul sur le plan de la lutte contre la corruption. C'est aussi la centralisation des pouvoirs qui n'est pas bonne, qui n'est pas une mesure qui pourrait promouvoir l'état de droit, mais aussi la lutte contre la corruption. Il est grand temps que le président de la République puisse revenir à la raison pour favoriser son pilier lié à la lutte contre la corruption.
Urgence sanitaire et humanitaire dans les camps des réfugiés congolais au Burundi. Une délégation des députés nationaux médecins y séjourne pour des consultations bénévoles des Congolais déplacés des guerres se trouvant dans différents camps. Annoncée lors de la plénière du vendredi 4 avril dernier par le président de l'Assemblée nationale, cette délégation est déjà à pied d'œuvre sur le terrain depuis son arrivée le mardi 8 avril et signale des cas de malnutrition, paludisme, rougeole et choléra. Conduite par le professeur Léon Kabamba, cette délégation parlementaire est composée de 5 députés médecins et 2 autres élus des circonscriptions électorales proches des déplacés. Michel Kifindangoy.
L'objectif de la mission des parlementaires médecins consiste en une consultation médicale bénévole des déplacés de guerre congolais au Burundi et des enseignements sur la prévention des maladies des mains sales. La mission étant axée sur une aide humanitaire et médicale aux déplacés, ces élus ont échangé pendant près de 4 heures avec les responsables santé et nutrition de HCR Burundi. De ces échanges, il ressort que le Burundi a accueilli au total plus de 70 000 nouveaux déplacés de guerre congolais, répartis répartis en 5 camps qui se sont ajoutés aux 100 000 déplacés urbains déjà présents dans ce pays. À en croire les rapports du HCR, la situation dans les camps reste débordée. Sur le plan sanitaire, des cas de malnutrition, rougeole, choléra, paludisme et 10% des hommes et femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles et plus ou moins 60 cas de maladies mentaux ont été détectés dès les premières évaluations. Plus de 100 enfants ont été vaccinés contre le paludisme, environ 7000 enfants contre la rougeole et 1300 contre la poliomyélite. L'insuffisance des lactrines, avec plus ou moins une lactrine pour 1000 personnes au lieu d'une pour 50 comme réglementé, pose un sérieux problème de santé publique.
Pendant ce temps, à Matadi, au Congo central, le médecin directeur de l'hôpital provincial de Kinkanda et 8 autres cadres de cette structure sanitaire de la province sont suspendus de leurs fonctions. Ils sont accusés de détournement d'une somme de 290 millions de francs congolais et de plusieurs autres irrégularités. Ça, c'est d'après des sources proches de l'inspection provinciale de la santé du Congo central. Cette décision tombe après l'enquête diligentée par l'inspecteur provincial depuis décembre 2024 qui s'est bouclée en février dernier. Le point avec Nana Plurichimambo.
Des sources proches de l'inspection provinciale de la santé révèlent que c'est l'inspecteur général de la santé Komba Djeko qui a instruit l'inspecteur provincial Sabin Ilunga de diligenter une mission d'enquête dans l'hôpital provincial de Kinkanda. Et c'est pour affirmer si réellement il y a eu détournement de fonds et matériels comme le dénoncent les agents de cette formation sanitaire. Cette enquête bouclée à la fin du mois de février 2025 s'est ouverte en décembre dernier. À l'issue de cette enquête, il ressort effectivement un détournement d'une somme de 290 millions de francs congolais pour l'exercice de l'année 2024. Plusieurs irrégularités ont également été constatées, notamment la pluralité des agents recouvreurs de fonds dans les sociétés conventionnées, le non-respect de la clé de répartition des recettes et j'en passe. D'après les résultats des enquêtes, ces détournements et ces irrégularités impliquent les médecins directeurs et 8 autres cadres de l'hôpital provincial de Kinkanda, dont 3 comptables, 3 caissières et 2 administrateurs gestionnaires chargés des finances et de la perception des fonds. Une suspension préventive a été décidée en leur encontre. L'inspection de la santé a par ailleurs envoyé les dossiers au parquet. Pour l'heure, la gestion de l'hôpital provincial de Kinkanda est confiée provisoirement à un autre médecin. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, dans un élan de solidarité nationale face aux défis sécuritaires, les confessions religieuses de la RDC ont apporté ce dimanche des vivres et non-vivres aux forces armées de la RDC et FARDC et au groupe d'autodéfense Wazalendo. Ces dons ont été réceptionnés par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
La délégation de ces confessions religieuses a été conduite par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Ces croyants ont remis une cargaison significative de vivres, des non vivre et une enveloppe substantielle, fruit des offrandes des fidèles des diverses obédiences, témoignant ainsi l'unité du peuple congolais derrière ses forces de défense. Au nom du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a salué ces gestes, reconnaissant l'engagement des FARDC et des combattants Wazalendo dans la défense de l'intégrité territoriale. Guy Kabombo Mwadiamvita.
C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et de Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, et je tiens ici à vous remercier très sincèrement de ce geste louable au profit de nos vaillants militaires et nos patriotes volontaires pour la défense de la patrie, qui en ce moment sont au front pour faire face à l'agression meurtrière nous imposé par le Rwanda.
Quelques pasteurs des églises des réveils présents à cette cérémonie ont salué la portée de cette action, initiée sous la mobilisation du ministre de la Justice en réponse à l'appel à la mobilisation générale décrété par le président de la République dans le cadre de l'effort des guerres.
Éducation. En Ituri, 447 candidats enseignants et directeurs d'écoles primaires ont passé une première phase des concours samedi pour le compte de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la ville de Bounia. Ceux qui auront satisfait au concours vont constituer la banque des données nationales des recrutements en cas de besoin. Le sous-préfet de Bounia, Réema Chenji, explique cette démarche du ministère de l'éducation nationale au micro de Sadiq Aboubakar.
Le mobile, c'est de recruter les enseignants sur base de mérites. On ne peut plus maintenant engager les enseignants sur base de sentiments ou consorts. Donc les enseignants font les concours et les concours sont corrigés dans les systèmes, dans les sites du ministère directement. Et ceux qui vont s'en sortir, on va avoir les résultats à partir de Kinshasa et leur nom sera gardé dans la banque de données nationale. À chaque fois qu'on aura besoin des enseignants pour le remplacement de décédés ou déserteurs ou consorts, on va aller dans la banque de données là pour piquer les noms de ceux-là qui ont réussi au niveau du coco. Vous savez que nous sommes une province pilote du projet PERS et on a d'abord essayé au niveau des écoles primaires publiques et on verra maintenant avec les ministères comment est-ce qu'on va élargir au niveau des écoles privées et consorts. On a d'abord la partie écrite qui vient de se passer. C'est comme une phase éliminatoire où on a fait la rédaction, on a passé la culture générale sur tous les deux parties qui ont constitué cette partie-là pour voir, pour d'abord tester les prérequis de l'enseignant ou bien du directeur qui va postuler. Alors maintenant, cette partie est une partie éliminatoire. Les gens qui vont réussir à cette partie vont passer maintenant à la deuxième phase qui va commencer demain mardi. Alors cette phase-là consiste maintenant à passer à la pratique professionnelle.
Sécurité à présent. À Kavumu, dans les territoires de Kabare au sud Kivu, la population vaque librement ses occupations ce lundi après une journée ébranlée de violence hier lors de la brève présence des Wazalendo dans la cité et à l'aéroport de Kavumu. Sauf les écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce matin par mesure de prudence adoptée par les parents et les enseignants. Le bilan des échanges des tirs d'hier est controversé. Certaines sources parlent de 24 personnes tuées tandis que la société civile locale fait mention de 8 morts et un blessé. Walungu Centre était également secoué par des échanges de tirs dans la nuit de dimanche à ce lundi, mais les informations en provenance de là rassurent que le calme est revenu. Les gens se promènent librement ce lundi. Les Wazalendo qui ont attaqué la position M23 se sont retirés vers leur base arrière. Les échanges de tirs ont entraîné 2 morts et 1 blessé, affirment nos sources sur place à Walungu. Suite qui vaut toujours, les moyens et hauts plateaux du territoire des Fizi font face aux escalades des violences à la suite des combats qui opposent les FARDC soutenus par les Wazalendo à la coalition des groupes armés Turaneo, Gumino et Kansar. 20 000 personnes affectées par les conflits vivent à la Belle Étoile sans aucune assistance. L'administrateur du territoire des Fizi qui livre cette information appelle le gouvernement central à tout mettre en œuvre pour restaurer la stabilité dans la zone afin de permettre aux humanitaires de venir en aide aux populations civiles affectées par les affrontements quasi permanents. Sami Dibanga au micro de Radio Kapi.
Ce 12 avril 2025, la coalition Tucaneo alliée au M23 AFC, appuyée par le Red Tabara, ont attaqué les positions de FRDC, appuyées par les Wazalendo CNPCC de Yamuri Yakutumba, Fabebe Dengomanzito et les Wazalendo Kakobanya. Le village Urukezi était déjà tombé entre les mains de la coalition Tucaneo à moins de 50 km du chef-lieu du territoire de Fizi. Les villages affectés par ces affrontements sont Urukezi, Centre, Badizi, Madeku, Bikarakara, Barusha, Bialere, Rukela, Kijombo, Urubuka, Kivumbuza. Le bilan provisoire fait déjà état de 25 corps. Plus de 20 000 personnes, femmes et enfants, passent nuit à la Belle Étoile sans aucune assistance humanitaire. Nous lançons un appel à notre gouvernement de pouvoir aider ces personnes déplacées dans les moyens et au plateau de Fizi.
Et au nord Kivu voisin, les rebelles du M23 sont de nouveau visibles dans les villages de Kachebere et Kibati, groupement Luberiki, territoire de Walikale. L'alerte est donnée par les acteurs de la société civile locale. Selon ses sources, la situation est relativement calme aujourd'hui dans ces entités. Toutefois, ajoute-t-elle, ces combattants soutenus par l'armée rwandaise auraient visiblement l'intention de reconquérir d'autres entités de ces territoires qu'ils étaient censés quitter depuis le 2 avril dernier. La société civile de Walikale appelle les autorités congolaises et la population civile locale a plus de vigilance face à cette situation qui, selon elle, pourrait de nouveau embraser ces territoires riches en ressources minières. Nous restons en Nord Kivu. L'association des taximens moto de l'Axe Massissi-Walikale plaide pour la libération d'au moins 15 de leurs membres arrêtés au Maniema depuis près de 20 jours maintenant. Selon le porte-parole de cette structure, ces motocyclistes en déplacement vers Lubutu à la suite de l'occupation de Walikale Centre par les rebelles du M23 opérés sur l'axe Lubutu-Kailo au Maniema. Depuis le 26 mars, dit-il, ils auraient été interpellés par les services de sécurité et renseignement du Maniema. Le porte-parole plaide pour leur libération. Écoutons Amani Bitu. Taha Lucien.
Sommes indignés de voir comment nos frères sont maltraités au chef-lieu de la province d'Imanema, à Kindu, pour les motifs que tout le monde ignore jusqu'à présent. Ce jeune mototaxman fuya la barbarie qui sévit à Walikale un certain temps jusqu'à Lubutu. Ils seront intéressés de dépêcher une marchandise de Lubutu jusqu'à Kailo. Finalement, ils seront arrêtés à Punia, au Poulindi, à Kailo, puis ramenés jusqu'à Kindu, le chef-lieu de la province. Et aujourd'hui, personne ne sait la situation de nos frères. Au nombre de 15, avec une lettre portant autorisation de circulation. Ils croupissent dans des cachons de cette contrée-là. Nous demandons qu'une procédure soit engagée pour que nos frères soient remis dans leurs droits, arrêtés sans aucun motif d'arrestation. Être soupçonnés, qui ignore que nous sommes dans une période de guerre.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. Le chef de la transition a donc obtenu un mandat de 7 ans à la tête du pays lors du scrutin du 12 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema a obtenu 90,35% des voix selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur. Son élection doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Il n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors de ce scrutin. Le deuxième, Alain-Claude Bilié-Bimzé, est crédité de tout juste 3%. Ce dernier s'est exprimé ce lundi matin devant la presse. Il a reconnu la victoire d'Oligui Nguema, mais ne l'a pas félicité car, selon lui, cette élection a été opaque et le processus discrédité par des scores à la tête du client et par un système de fraude qui s'est reconstitué.
L'invité.
Nous savons que la situation n'est pas facile, mais nous gardons la foi et l'espérance. Tel est le message que Mgr Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a adressé hier aux chrétiens de son diocèse à l'occasion de la célébration du dimanche des Rameaux. Pour lui, les difficultés actuelles rencontrées par les chrétiens de Goma ne devraient pas altérer leur foi. L'évêque du diocèse de Goma est notre invité dans cet entretien que nous propose Rosalie Zawadi, réalisé en collaboration avec les confrères des radios Maria Goma. Suivez.
Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma, bonjour. Vous avez célébré la messe du dimanche des Rameaux à la paroisse Bienheureuse Anoirité. Quel est votre message à la communauté chrétienne du diocèse de Goma à cette occasion?
Cette année, j'ai voulu venir célébrer le dimanche des Rameaux ici à la paroisse Bienheureuse Anoirité. Comme vous le savez, j'ai fait le tour des paroisses et j'étais très très heureux de revenir à cette paroisse pour la célébration dans cette nouvelle église. Une très belle église qui a été construite par les chrétiens eux-mêmes. Et c'était pour moi une grande joie de revenir encore célébrer la messe ici et de voir la joie des chrétiens. C'est pourquoi j'en ai profité pour inviter les chrétiens à la responsabilité. Vous savez, nous sommes dans un contexte difficile. Il y a 2 jours, les gens étaient encore secoués par des tirs la nuit, des armes lourdes. Ils se sont encore rappelés les souvenirs de la guerre. C'est pour nous rappeler que l'insécurité est toujours là autour de nous. Nous avons aussi des crises économiques, la crise monétaire avec la fermeture des banques, la crise économique aussi avec la fermeture de l'aéroport, avec le commerce qui ne marche pas puisque les gens n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens. Alors, nous savons que la situation n'est pas très, très facile, mais nous gardons la foi et l'espérance. Le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le mal, et il nous a montré le chemin de la gloire, le chemin de sa résurrection, que cela passe aussi par la croix. Alors, c'est une invitation pour nous à porter ce moment où nous sommes en train de vivre comme une croix, à marcher derrière Jésus pour que nous puissions ressusciter avec lui, pour que nous puissions retrouver le chemin de la paix, de la joie, de la fraternité et surtout le chemin de l'amour. Moi, j'ai rappelé cela aujourd'hui. Jésus est mort par amour pour nous. Alors que nous étions pécheurs, lui, il était l'innocent, mais il a accepté de mourir pour nous. Il a donné sa vie et il est allé jusqu'au bout. Donc il est important que nous aussi, nous sachions aller jusqu'au bout de nos responsabilités, mais par amour pour les autres, par amour pour nos frères, par amour pour les pauvres, mais que nous sachions aller jusqu'au bout comme Jésus.
Et ainsi commence la Semaine Sainte pour cette année, dans un contexte particulier, comme vous l'avez dit. Quelles recommandations aux chrétiens de votre diocèse pour cette semaine?
Vous savez, la Semaine Sainte nous conduit vers la la célébration de la Pâque. Comme vous savez, la Pâque, c'est la fête de toutes les fêtes, c'est la mère de toutes les fêtes liturgiques. Et c'est une semaine très importante pour nous, chrétiens. C'est une semaine où nous allons célébrer notre foi, une foi vécue. Pas seulement proclamé, mais une fois vécu, nous devons entrer dans la semaine sainte avec foi, avec confiance dans le Seigneur, avec espérance que les situations difficiles que nous connaissons ne puissent être pour nous un obstacle à notre foi. Il faudrait que nous puissions vraiment célébrer toutes les célébrations de cette semaine sainte avec beaucoup d'enthousiasme, avec la confiance surtout dans le Seigneur que Il a triomphé du mal et il nous mènera nous-mêmes aussi vers la joie, vers la paix, vers la fraternité et vers l'amour. Et surtout vers la justice dans tout ce que nous vivons. Nous devons chercher à être justes, à célébrer la justice de Dieu, à célébrer l'amour du Seigneur et surtout à garder la foi. Nous sommes dans l'année de l'espérance, l'année sainte de l'espérance. Que cette semaine sainte qui commence soit encore pour nous l'occasion de redoubler de foi, de grandir dans l'espérance et dans l'amour fraternel.
Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma, merci.
Merci beaucoup.
Par ici s'achève ce journal coordonné par Jordan Blaise Shindani Kambala et supervisé par Martin Sebujangwe. La mise en onde de Polydor Basunga, Grâce Amzati Masanzi était la présentation. Merci.